Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vivant l'émission, un programme consacré à l'actualité et aux initiatives pour la transition écologique et sociale dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Une émission préparée par la rédaction de Vivant le Média et diffusée chaque premier vendredi du mois sur les ondes de nos radios partenaires, Radio Pulsar à Poitiers, Radio Agora à Montmorillon, Radio Gâtine à Parthenay et Aux Ondes à Châtellerault. Pour notre séquence reportage, on ouvre une fenêtre sur l'emploi. On vous emmène à la découverte de Viennemoulière Solidarité, une structure d'insertion située à Chauvigny qui a ouvert la première filière de recyclage des menuiseries de toute la Vienne. En janvier 2023, l'entreprise spécialisée en travaux du bâtiment s'est lancée dans une toute nouvelle activité, le recyclage des fenêtres en fin de vie. L'objectif, c'est de répondre à un besoin non couvert sur le territoire, tout en créant de l'emploi dans une démarche écologique. Christophe Aigui, encadrant technique et responsable de l'atelier.
Alors, est-ce que tout est recyclable dans une fenêtre ?
Alors, si on part de la base, c'était 7 millions qui étaient pas recyclables et qui auraient pu l'être. Aujourd'hui, on recycle, nous, ici, chez BMS, 86% de la fenêtre, que ce soit bois, PVC, aluminium. Voilà, donc il reste un petit peu qui va partir, malheureusement, en déchetterie, qui sera quand même enfouie, parce qu'il n'y a pas encore de procédé de recyclage sur ça. Mais avec le temps, je pense que ça va se faire. Et si on arrivait vraiment à recycler la totalité, ce serait bien, quoi. On a encore quelques soucis sur le bois B, parce qu'il y a des matériaux qui ne sont pas traitables, mais ça va venir. Le bois B, c'est les bois qui sont peints, qui peuvent avoir des traces d'amiante, la différence d'un bois exotique qui, lui, peut être traité, qui est moins pollué, qui, lui, est imputrescible et qui peut être recyclé pour du mobilier urbain ou plein d'autres choses comme ça, quoi.
Les 12% que vous ne parvenez pas à recycler, c'est donc essentiellement du bois B.
C'est du bois B, ça va être du joint, plastique, des choses qui ont eu précédemment un traité chimique en fin de compte. Parce que pour séparer les molécules chimiques d'un joint caoutchouc qui va entourer une fenêtre, un double vitrage, c'est assez complexe.
Alors comment est-ce qu'on recycle une fenêtre de A à Z ?
Donc les fenêtres arrivent soit par semis, soit on va les chercher, hein, ce que nous on appelle la collecte. Donc quand elles arrivent ici, elles sont traitées de plusieurs façons. Hein. Il y a le PVC, il y a le bois, l'aluminium. Donc on ne mélange pas les trois matériaux en fin de compte. Donc si on prend la fenêtre PVC, elle va arriver dans l'atelier, elle va aller sur une première table de démantèlement où on va séparer la vitre de tout l'ouvrant. L'ouvrant, c'est le cadre de la fenêtre. La vitre va passer sur un autre poste de travail que nous, on appelle ici la table oscillante. Donc, on va séparer les joints qui séparent le double vitrage. Le verre va être envoyé sur un autre poste de travail où il va être nettoyé, qui, une fois propre, va aller sur une table de casse où il va être cassé dans les sacs, dans les big bags. Les cadres sur lesquels on a sorti le verre vont aller sur une table de démantèlement où on va y retirer tous les matériaux constitutifs. Le PVC, une fois qu'on l'a démantelé, va aller sur une autre table de coupe où on va couper les profils, ce que nous ici on l'appelle comme ça, hein, les profils, les barres de fer qui sont là. Voilà, ça c'est ce qu'il y a à l'intérieur des montants en PVC.
À l'intérieur des montants blancs classiques des fenêtres.
Voilà. Donc après, sur la table de démantèlement, donc ils y ont retiré les gonds et tout est trié par caisse, les joints, les plastiques. Et après, donc les PVC sont mis dans les caisses grillagées. Le blanc avec le blanc, le couleur avec le couleur, parce qu'on mélange pas les deux produits. Hein. Et puis pour le bois, c'est la même chose, quoi. La dernière étape, c'est après, une fois qu'on a un certain volume, on évacue chez nos filières de recyclage le métal, le bois, le PVC, le verre, le plastique.
Et donc l'idée, quand on vous apporte des fenêtres qui sont en bon état, c'est de les réemployer plutôt que de les recycler.
Oui, on les garde. Pas toutes, parce que chaque fenêtre a une cote différente, donc on ne peut pas non plus stocker. Mais oui, celles qui sont en très bon état, on les garde. Et puis, par exemple, sur une porte, une ancienne porte-fenêtre en bois avec des ferrures, on garde des ferrures qui peuvent être utilisées par quelqu'un plutôt que d'acheter à des prix un peu plus chers, quoi.
Alors, quelle quantité de fenêtres est-ce que vous avez recyclées depuis le début de l'activité ?
Alors nous, sur les 120 tonnes, donc en stock, il m'en reste une trentaine de tonnes. Donc nous, on est à quasiment 90 tonnes de traitement avec en moyenne 8 personnes dans l'atelier, quoi, qui travaillent du lundi au jeudi, hein, parce que c'est des contrats de 28 heures. Et puis donc nous, dans l'atelier, on a une parité homme-femme, hein, donc on essaye que voilà, une femme n'est pas plus faible qu'un homme ou plus forte. Hein.
Et donc, le principe de ce chantier de recyclage de fenêtres, c'est d'accompagner, de donner de l'emploi à des personnes qui en étaient éloignées, c'est ça?
C'est ça. Soit éloignées, soit accident de vie et de parcours. Alors, c'est des contrats maximum de 2 ans. Ce sont des CDD de 4 mois, 8 mois et 12 mois, où ils ont un accompagnement socio-professionnel pour leur projet de formation, hein, de ce qu'ils ont envie de faire vraiment dans la vie. Le but, c'est qu'à la fin du chantier d'insertion, ils remettent vraiment le pied dans le milieu, moi j'appelle ordinaire, classique, ou vraiment en leur réinculquant le cadre de travail, le respect des horaires, la hiérarchie, et puis ça marche bien.
Donc Félix, vous étiez en train de décoller les joints et le plastique d'une fenêtre. Ça fait combien de temps que vous travaillez ici?
Ça fait 3 mois bientôt, ouais. Donc ça va, c'est pas trop dur. J'ai eu un peu de mal au début parce que c'était un peu... Ça fait 4 ans que j'ai pas travaillé, parce que j'étais papa au foyer. Donc ça a été un peu compliqué, mais maintenant, apprendre le pli, c'est simple.
Vous travaillez dans quel secteur avant de vous consacrer à vos enfants?
J'ai un CAP de magasinier cariste, donc je travaillais là-dedans. J'ai fait 1 an et demi en tant que maraîcher. Avant, j'ai fait les saisons de melon, les saisons de tournesol, beaucoup le travail de la terre.
Faut vraiment enlever tout ça,
je sais. Mais là, pour le moment, on fait quoi, là?
Il faut le mettre de côté, mais tu... de toute façon, il faudra le découper. Mais par contre, pour enlever les vis qui en bas...
Alors Jeanne, vous travaillez ici depuis le mois de janvier. Qu'est-ce qui vous a amené à rejoindre cette entreprise?
Parce qu'en fait, j'ai pas travaillé pendant un long moment. Et je savais qu'en venant ici, avec les conseillères en insertion qu'il y a, je me suis dit que c'était le moyen de... un bon tremplin, en fait. Pour moi, c'était un bon tremplin pour pouvoir reprendre une vie active professionnellement. Et j'en suis très contente parce qu'ils m'ont appris tellement de choses, j'ai appris tellement de choses ici et j'en apprends encore tous les jours.
Ça vous a permis de retrouver de la confiance dans le secteur de l'emploi, c'est
ouais,
ça?
Oui, c'est ça. Bah oui, hein. Bah tous, je pense que tous mes collègues, on est tous pareils. On vient tous de milieux un peu différents, mais au fond, on vient du même endroit, on ne travaillait pas. Maintenant, on vient, même mes collègues, ils m'apprennent tellement de choses que je suis trop contente de venir le matin. Je suis trop contente de passer du temps avec mes collègues, je suis trop contente de travailler avec eux parce qu'ils m'apprennent tellement de choses. C'est tellement enrichissant.
Vous en avez forcément entendu parler, la flamme olympique est passée en Vienne, fin mai. L'occasion de contempler, depuis une marée humaine, un défilé de véhicules tous plus utiles les uns que les autres. C'est bien simple, on ne savait plus où poser les yeux, entre les camions de police et les camions publicitaires, balançant des objets indispensables à la survie de l'espèce, comme des canettes de soda ou des casquettes. Le rêve. Un rêve qui a un prix, quand même. 180 000 euros par département pour accueillir le cortège. L'addition est plutôt salée. Mais outre le coût économique, les Jeux Olympiques ont surtout un coût écologique important. Justement, le gouvernement se targue d'organiser des Jeux verts. Dès 2021, il affirmait que les JO de Paris seraient les premiers à avoir une contribution positive pour le climat. Ce 23 avril, le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu était comme animé d'un feu sacré, en déclarant que Paris 2024 va même, je cite, « accélérer la transition écologique et sociale ». N'est-il pas beau tout ce greenwashing? Si vous n'y voyez que du feu, ne vous inquiétez pas, on va dissiper quelques écrans de fumée. Déjà, la volonté de rendre ces jeux « entre guillemets neutres en carbone », elle n'a pas fait long feu. Revue à la baisse, l'ambition actuelle est plutôt de diviser par 2 l'empreinte carbone des jeux par rapport aux éditions précédentes. Mais les experts restent sceptiques. D'après l'ONG Carbon Market Watch, l'empreinte carbone des JO reste bien trop élevée pour être durable. Et encore, ça, c'est si l'objectif actuel est atteint. Pour cette ONG, la stratégie climatique des organisateurs est incomplète et manque de transparence. Pas très encourageant. Un autre argument plébiscité par le gouvernement, c'est la mobilité durable. La promesse, 100% des sites de la compétition seraient accessibles en transport en commun. Pour ça, le ministère de la Transition écologique annonce avoir financé la création de 120 km de pistes cyclables. Mais ça, c'est l'arbre qui cache la forêt en feu. Pourquoi? Parce que le trafic aérien représente une part considérable des émissions de gaz à effet de serre des JO. Quelques chiffres. Pour Paris 2024, on s'attend à la venue de plus de 15 millions de personnes, dont environ 12% viendront de l'étranger. Ça représente quand même 2 millions de visiteurs, soit l'équivalent de Paris intramuros. Si les touristes s'initient au Vélib une fois sur place, grand bien leur fasse, mais ça n'annulera pas le CO2 qu'ils auront émis pour venir des quatre coins du monde en avion.
Côté BTP, un gros atout de Paris, c'est que la France disposait déjà de beaucoup d'infrastructures pour accueillir les compétitions. Le nombre de constructions a donc pu être limité, car 95% des sites existaient déjà. Un bon point, mais qui n'empêche pas l'accélération de projets destructeurs pour l'environnement. Dans le Val d'Oise, le chantier d'une piscine olympique a par exemple détruit 30 000 mètres carrés d'espace vert. Dans les Yvelines, des arbres ont été abattus pour construire une piste de VTT. Le département de la Seine-Saint-Denis, quant à lui, a cédé une parcelle d'une de ses dernières zones vertes pour construire le village des médias des JO 2024. Bref, les espaces naturels sacrifiés sur l'hôtel olympique sont nombreux, et ils vont bien au-delà de la région parisienne. À Tahiti, une tour en aluminium a été érigée en plein récif corallien fragile pour arbitrer les épreuves de surf. Il y avait déjà une tour en bois complètement fonctionnelle, mais que voulez-vous, quitte à détruire les récifs, autant le faire avec style. Bon, et puis comment évoquer les JO sans parler de l'eau, justement ? L'une des promesses phares des Jeux, c'est de dépolluer la Seine et la Marne pour accueillir les épreuves de nage en eau vive et de triathlon. Mais oui, vous savez, ces fleuves régulièrement contaminés par des bactéries fécales. C'est quand même amusant, quand on y pense, qu'il faille attendre une manifestation sportive pour s'intéresser à la qualité de nos cours d'eau. Et au risque de jeter de l'huile sur le feu, rappelons que les JO d'hiver de 2030 ne s'annoncent pas plus glorieux. Ils se tiendront dans les Alpes, une chaîne de montagnes particulièrement menacée par le dérèglement climatique, l'urbanisation et le tourisme de masse. L'endroit idéal pour organiser des Jeux olympiques, donc. En définitive, notre maison brûle et nous la regardons brûler. Avec, en prime, une belle flamme olympique pour contribuer à l'incendie.
Et tout de suite, en bref, un petit tour de l'actualité de la transition écologique et sociale locale. Ce soir, tient lieu Le Clou à Chauvigny, temps d'échange et rencontres de 20h à 22h à l'occasion de la publication du livre « Avoir 20 ans à Sainte-Soline ». Au programme, entretien croisé avec des membres de la Confédération Paysanne et avec Gwendal Roblin, l'un des 6 chercheurs en sciences sociales qui a participé à la rédaction de l'ouvrage. L'entrée est sur participation libre et la réservation fortement conseillée. L'espace Mendès France de Poitiers vous donne rendez-vous pour l'atelier Invisible Biodiversité ce dimanche 9 juin à 14h30. Pendant 1h30, partez à la découverte de ces mondes regorgeants de vie grâce aux objectifs des microscopes. Le moment idéal pour découvrir un laboratoire et se former à l'usage des outils du quotidien d'un biologiste. Un atelier de l'école de l'ADN en Nouvelle-Aquitaine, réalisable à partir de 7 ans, sur réservation, compté entre 3,50 euros et 6 euros. À Poitiers, les assises régionales de la biodiversité se tiendront à l'hôtel de région le 20 juin. À l'initiative de l'Agence régionale de la biodiversité Nouvelle-Aquitaine, la journée sera consacrée aux enjeux liés à la biodiversité et à l'eau. Au programme de cet événement organisé tous les 2 ans, de nombreuses tables rondes, stands d'information, ateliers thématiques et conférences. Le bon moment pour écouter et rencontrer de nombreux chercheurs et chercheuses, élus, agents territoriaux et les acteurs et actrices de la société civile et du monde économique. La réservation en ligne est obligatoire et le repas, un panier poids de vin, est pris en charge.
Et c'est déjà la fin de Vivant l'émission. Une proposition de la rédaction de Vivant le Média, service de presse en ligne dédié aux actualités et initiatives pour la transition écologique et sociale dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez tous nos reportages et interviews, écrits et radio, sur vivant-le-media.fr. Et si vous souhaitez nous contacter pour nous faire parvenir des infos et actualités en lien avec notre ligne éditoriale, voici l'adresse mail où nous écrire contact@vivant-le-media.fr. Merci de nous avoir suivis, je vous donne rendez-vous le vendredi 5 juillet pour une prochaine émission. D'ici là, prenez soin de vous et de la planète.